Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, c'est le volet législation qui prend la place sur le podcast. MLOS, expert en la matière, vient nous livrer tout ce qu'on doit savoir au niveau des lois quand on se lance dans le e-commerce. Bonne écoute, ça commence maintenant. Pour des e-commerce et Facebook Ads, 2022 aura été la grande découverte de trois choses. Numéro 1, l'offre est revenue au centre de l'exercice. Numéro 2, lorsque vous n'avez pas la possibilité de proposer des rabais agressifs, il existe une offre qui peut vous sortir de toutes les impasses et même du Black Friday, celle de donner plus de valeur perçue à votre offre. Et numéro 3, l'apparition et les succès répétés d'un outil pour les e-commerce, la roue des promotions dont nous aborderons dans cette chronique par le biais d'un exemple. Nous sommes chez un e-commerce avec un produit unique, un complément alimentaire. Il est difficile de faire émerger une nouvelle habitude de consommation chez notre audience, donc l'acquisition nous coûte cher. C'est pourquoi depuis un moment, nous travaillons en génération de leads afin d'éduquer notre base au produit en question et à ses bienfaits. De ce fait, on ne s'attend pas avec une telle campagne d'acquisition d'obtenir un retour sur investissement de 2 immédiatement, mais au moins que celle-ci nous coûte rien. Pour ensuite vendre d'autres produits à notre client ou relancer d'anciens acheteurs par le remarketing, c'est un produit consommable qui se commande à nouveau dès qu'on a terminé. Nous faisons un test. Nous mettons en concurrence un e-book, donc du contenu gratuit, contre la roue des promotions. C'est une application que vous pouvez ajouter sur votre site afin qu'elle propose à chaque visiteur de tourner une roue avec des promotions en échange d'une adresse email. Nous avons vu que lorsqu'elle est annoncée directement sur des publicités, les résultats sont sensationnels pour vendre et pour se constituer une base de prospects. Mais alors, qui gagne entre le e-book et la roue? Pour le savoir, nous avons regardé l'utilisation des codes promo offerts par la roue et les achats générés par nos inscrits au e-book depuis Klaviyo. Voici le résultat. Le e-book a généré 281 prospects, un coût par lead de 1,7 euros, un budget Facebook Ads à 477 euros, un CTR lien de 1,76, les revenus sur Klaviyo de 98 euros, une valeur par email de 0,34 euros et un ROAS, donc un retour sur investissement total de 0,20. Assez peu, vous me direz. Et la roue maintenant? 779 prospects, un coût par email de 1,05 euros. Un budget Facebook de 815 euros, un CTR lien de 3,71%, des revenus sur Klaviyo de 785 euros, une valeur par lead de 1 euro et un ROAS, donc un ROI total de 0,96. Face au e-book, la campagne roue nous donne beaucoup plus d'avantages. Un trafic plus présent sur le site, voire le CTR lien mentionné plus haut, des prospects moins chers qui génèrent plus de valeur et une acquisition quasi gratuite. Et en plus de générer des prospects pour moins cher, la campagne roue nous permet de mieux qualifier notre trafic et de générer plus de ventes dans l'immédiat. Définitivement, c'est une offre à tester avant de s'attarder à créer un lead magnet avec du contenu de qualité. Là où une campagne roue ne vous demande qu'un plugin sur votre site et des créatifs Facebook Ads, un e-book vous demandera beaucoup plus de travail. Connaissez-vous réellement toutes les lois importantes pour votre boutique en ligne? Avez-vous en place les bonnes politiques sur vos pages de produits? Le volet légal est un des sujets les plus importants à savoir en e-commerce, mais le plus souvent délaissé. MLOS, expert en la matière, vient nous livrer aujourd'hui tout ce qu'on doit savoir sur le sujet pour être certain d'être légal en 2023. Bonne écoute, ça commence maintenant. Donc, on est de retour avec le volet discussion du podcast Commerce Élite. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Émile OS. Émile qui a un parcours assez intéressant en e-commerce, qui a été e-commerçant de son côté, mais également qui a un parcours assez fascinant au niveau du droit. On va en discuter aujourd'hui ensemble. Mais Émile, avant toute chose, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien. Heureux de rejoindre ce podcast et d'être en ta compagnie.
Je pense que ça va être plaisant parce que ton expérience est assez, comme j'ai dit un petit peu en intro, assez impressionnante, fascinante même, parce que c'est sur des segments du e-commerce qu'on touche rarement. Beaucoup de gens dans le commerce électronique vont avoir un background très spécifique en marketing. Peut-être qu'ils vont avoir un background spécifique pour la construction de cet Internet, mais c'est très rare que j'ai la chance de parler, ou du moins personnellement, à des gens qui ont œuvré un peu plus dans le domaine du droit. Donc, avant d'en discuter, parce que ça va être ça l'objectif de la discussion aujourd'hui ensemble, Émile, est-ce possible pour toi de peut-être nous faire un petit résumé de ta carrière jusqu'à maintenant dans le monde du e-commerce?
Alors, avec plaisir. Alors, moi, j'ai tout d'abord découvert le milieu du business en ligne de manière générale, alors que je terminais mes études de droit. Donc, comme beaucoup de personnes, je me suis intéressé un petit peu à les différents business qui existaient, et notamment, j'ai vu passer le dropshipping. Donc, je m'y suis penché un petit peu plus, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait. J'étais assez dubitatif au début. Et puis, j'ai décidé de me lancer un été en 2019, et donc j'ai essayé. Pas mal de difficultés pour me lancer, mais après, ça commençait un petit peu à prendre. J'ai repris un petit peu le droit et voilà. Et puis, avec le temps, en fait, j'avais créé une boutique qui commençait à marcher un peu toute seule, sans vraiment que je m'en rende compte. Et c'est un peu cette boutique qui m'a rappelé vers le e-commerce en me disant « Regarde, tu fais rien pour moi et je fonctionne quand même ». Et donc, c'est un petit peu cette boutique-là qui m'a fait me replonger là-dedans un petit peu plus sérieusement. Et je me suis dit, bon, on va s'y mettre sérieusement et on va essayer tout ça. J'ai pris une formation et puis arrivé 2020 avec le confinement, j'ai lancé quelques boutiques et là, ça a explosé. Hein. Je pense que tous les e-commerçants se souviendront de cette période. Hein. Je pense qu'elle a marqué l'histoire du e-commerce. Et puis voilà, et je me suis retrouvé avec des jours où je gagnais par jour ce que je faisais en un mois dans des cabinets d'avocats. Et c'est là où je me suis dit, bon, on va peut-être se décaler un petit peu et s'intéresser un petit peu plus au e-commerce. Et donc, c'est comme ça que je me suis plongé vraiment beaucoup dans ce milieu-là, du business en ligne. Et j'ai été fasciné, en fait, de voir le nombre de personnes qui se construisent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils apprennent tout par eux-mêmes, qui se débrouillent par eux-mêmes. Là où, dans un monde du droit, c'est très rigide, très, voilà, il y a un chemin à suivre, il faut être bon, respecter, être sérieux, etc. Là, on entre dans un bain où il y a plein de choses à apprendre, de l'expérience à en tirer de partout. Et puis, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un gros besoin de droit. Parce que certes, on peut apprendre le marketing avec l'expérience, sa propre expérience, l'expérience des autres, mais le droit, c'est pas simple. Et donc, on pouvait trouver de tout type de services, mais le droit, si on l'a pas étudié, malheureusement, ça prend pas. Enfin, ça peut être dangereux même. Et moi, personnellement, du coup, je m'aidais en droit moi-même et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient les mêmes besoins que je rencontrais moi et je me retrouvais en fait à répondre à des commentaires, à répondre à des posts sur des forums, etc. Et de plus en plus, des gens me contactaient personnellement parce qu'ils avaient vu mes réponses en commentaire et j'étais de plus en plus sollicité. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin du cadre juridique du e-commerce parce que, en fait, d'un côté, on a les professionnels du droit qui ont du mal à suivre en fait le rythme du business en ligne et de l'évolution hyper rapide. Le droit aussi, hein, parce que le droit a encore du mal à encadrer de façon adéquate les activités. Et moi, en fait, qui le vis, j'arrivais à comprendre suffisamment bien les problèmes qu'on rencontrait pour pouvoir y appliquer les bonnes notions juridiques, savoir dans quelle case juridique faire rentrer telle chose. Et puis, c'est comme ça que je me suis lancé avec notamment la TVA en juillet 2021, qui est venue complètement bouleverser le e-commerce en Europe. Et puis donc, voilà, donc c'est une réforme, une grosse réforme qui est venue me donner l'opportunité de me lancer et d'aider les e-commerce. Voilà.
Bon, et te parler de la TVA, et j'imagine qu'il y a peut-être d'autres points également qui revenaient dans ces différentes questions que tu répondais. Et j'aimerais qu'on commence peut-être un peu la discussion là-dessus aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. Quels sont ces indispensables à savoir quand on est en e-commerce? Bon, bien entendu, tu es basé en Europe, donc il va y avoir des distinctions avec les gens qui opèrent en Amérique du Nord, mais tout de même, pour les gens en Europe qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont des questions sur les réglementations qu'ils doivent avoir sur leur site web, sur les taxes, comme tu l'as mentionné, sur les niveaux d'imposition. Quels sont les indispensables, selon toi, à savoir au niveau du droit quand on se lance dans le commerce en ligne?
Alors, déjà, premièrement, on va avoir quelque chose d'évident, c'est la structure. C'est-à-dire que parfois, on a tendance un petit peu à se lancer parce qu'on veut essayer, etc. Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, il faut se structurer et correctement se structurer parce que selon les structures juridiques, il peut y avoir des avantages et des inconvénients au niveau de l'activité qu'on a. En l'occurrence, le e-commerce, toutes les structures ne sont pas forcément adaptées. Ensuite, on va avoir des obligations qui sont liées plus au droit de la consommation. Donc, on a une relation avec un consommateur et il y a toute une réglementation beaucoup plus stricte qui est autour du consommateur et qu'il faut respecter. Donc, ça va être les pratiques commerciales trompeuses qu'il ne faudra pas faire. Il va y avoir les pages légales, il va y avoir plusieurs choses comme ça. Mais si je peux retenir deux choses, ça va être les pratiques commerciales, parce que on peut beaucoup voir des vidéos, des conseils en marketing où on lui dit voilà, mettez un timer par-ci, faites telle offre comme ça. Mais en réalité, si on ne fait pas attention, on peut vite tomber dans la pratique commerciale trompeuse ou déloyale et ça peut être sanctionné. Donc, faut faire attention à ça. Et deuxièmement, c'est les pages légales, parce qu'en fait, les pages légales sont l'identité de notre site. Et donc non seulement c'est premièrement l'identité, donc notamment avec les mentions légales, et aussi la réglementation de notre site. Parce que comme dans toute organisation, il y a, on va dire, des règles à respecter à l'intérieur. C'est comme quand on est à l'école, il y a des règles disciplinaires à l'école. Bah, c'est un petit peu la même chose, c'est un contrat. Et donc là, c'est les conditions générales de vente. Elles servent à montrer qu'on respecte certaines choses, mais elles servent aussi à définir la relation qu'on a avec le client. Et si on ne définit pas bien les relations qu'on a avec le client, ça peut se retourner contre eux. Donc voilà les indispensables de façon générale.
Intéressant. Puis bon, les indispensables, et j'imagine qu'à travers le temps, tu l'as peut-être fait toi-même, tu l'as peut-être vu avec d'autres personnes que tu as côtoyées, il y a également des erreurs fondamentales qui vont peut-être être faites avec des gens qui ont des boutiques en ligne. As-tu des anecdotes pour nous, peut-être que des erreurs que tu as vues de ton côté ou de d'autres personnes, qu'on doit s'assurer peut-être de comprendre? Si d'autres personnes ont fait des erreurs avant nous, on va les comprendre pour être certain qu'on ne va pas les répliquer par la suite de notre côté.
Alors, les erreurs, ça va être... Alors, il va y en avoir plusieurs, mais tu parles des erreurs à quel niveau?
Ben, disons, est-ce que tu as vu des gens se faire taper sur les doigts par la réglementation française avec leur boutique en ligne parce qu'il y avait des enjeux qui ont peut-être complètement oublié au niveau de leur incorporation, au niveau de leur site web, au niveau peut-être de leurs produits, au niveau de la description des pages produits des fois, ou est-ce qu'encore une fois, on dit peut-être une publicité qui est mensongère? Parce que bien entendu, il y a des indispensables à savoir, mais il y a également peut-être des fois des erreurs à éviter qu'on n'aurait pas pensé qui pourraient subsister et qu'on se doit en tant que propriétaire de boutique en ligne ou directeur marketing de boutique en ligne de comprendre quand on est dans une période de commercialisation. Mmh.
Alors, il faut savoir que dans tout pays, il y a des institutions, des organismes d'État qui viennent contrôler que l'environnement numérique se passe bien, que les sites respectent la réglementation, etc. En France, ça va être la DGCCRF et son rôle, en fait, c'est d'aller vérifier qu'il n'y a pas des pratiques commerciales trompeuses, déloyales, comme j'expliquais tout à l'heure. Et notamment aussi des vérifications au niveau des pages légales et entre autres la protection des données, toutes ces choses-là. C'est des choses qui peuvent être pas très évidentes à première vue parce que on se dit pas peut-être que une clause dans mes pages légales peut m'apporter des problèmes. On se dit pas que peut-être une petite offre si elle est mal faite peut m'apporter des problèmes. Et en fait, ça peut causer des sanctions, des grosses amendes qui peuvent aller parfois jusqu'à 500 000 euros, en tout cas en France. Hein. Et puis d'ailleurs, ça fait en France, ça fait depuis je crois un mois ou deux où la DGCCRF maintenant publie publiquement les sanctions, de sorte justement un petit peu, voilà, on vous étale sur la place publique, on vous dénonce et justement, c'est pour essayer de mettre des petits coups de pression pour pousser les commerçants à ne pas faire n'importe quoi, à pas essayer d'abuser.
Bien sûr.
Donc c'est souvent des choses comme ça, souvent des choses autour de ça. Et puis, s'il y a d'autres pièges aussi, ça va être négliger la relation client, comme je disais tout à l'heure. Quand un client est mécontent, la première chose qu'il va faire, c'est aller regarder déjà la page produit pour voir s'il n'y a pas des infos et les pages légales, et notamment soit les politiques de remboursement, soit les conditions générales de vente. Et il va aller regarder ce qui est prévu, ce qui est écrit. Et si on a fait un petit peu comme beaucoup de monde, on a copié-collé des pages, on allait les mettre, et en fait, après, on se rend compte qu'en fait, nos conditions générales de vente contredisent ce qu'on avait décidé de faire, eh ben ça peut être assez gênant. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de bien gérer ces conditions. Moi, si je peux donner un exemple pour moi, quand je développais mes boutiques, avec le temps, je rencontrais parfois des petites problématiques avec des clients. Et ça me permettait après d'aller améliorer mes pages légales, ajouter des petites clauses, modifier des petites phrases, de sorte qu'en fait, à la fin, j'avais des pages légales en béton et voilà, et ça glissait tout seul et au moins, tout était bien prévu. Donc voilà, de façon générale, c'est ça.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. J'aimerais parler maintenant d'expansion avec toi. On a la chance sur le podcast Commerce Elite d'avoir une audience canadienne, d'avoir également une audience française. Donc, on va essayer de se mettre dans les souliers. On va commencer, disons, avec un propriétaire d'une boutique canadienne ou américaine, peu importe la localisation de la boutique à la base, et qui veut venir s'implanter en France, qui voudrait venir faire une certaine expansion, vendre ses produits sur le territoire français. Quels sont les indispensables à savoir? Et peut-être par la suite, on pourra faire le cas inverse.
Alors déjà, premièrement, il va y avoir la question de la TVA. C'est la première obligation qu'on va avoir quand on veut vendre dans un autre pays, parce que c'est une obligation qui n'implique rien de spécial en tant que de structuration sur place. On a un client dans un pays, la TVA est une taxe qui est sur le consommateur. Si le consommateur est français, la TVA est française. Voilà, ça c'est la première chose. Donc déjà, pensez à ça. Après, quand on veut s'implanter, il faut aussi bien comprendre l'environnement économique de la zone dans laquelle on veut aller. Si on va dans l'Union européenne, on a l'Union européenne est une zone économique, et donc là-bas, je parlais de TVA, mais on va avoir tout un réseau de gestion de la TVA, justement pour simplifier un petit peu le commerce dans l'Union européenne. Aux États-Unis, ils ont leur système avec la sales tax aussi. C'est un écosystème, donc voilà, une sorte de d'écosystème économique vis-à-vis de ça. Et puis après, il faut comprendre aussi que les réglementations qui vont s'appliquer sont toujours les réglementations du client. Et là, je pense au droit de la consommation. Si un consommateur français achète sur votre boutique, il faut savoir que si à un moment il y a un problème avec lui, ça va être le droit du consommateur qui doit s'appliquer. Contrairement à si vous avez un problème avec un professionnel, où là, vous pouvez gérer ça vis-à-vis de vos contrats, de vos pages légales, etc. Mais quand c'est un consommateur, parce qu'on le considère comme plus faible, on va appliquer la réglementation de son pays. Okay. Voilà, globalement. Après, je sais pas si tu attendais d'autres réponses, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, donc je sais pas par quoi commencer, mais...
Non, mais je pense que c'est important de savoir la taxe ici à ce niveau-là. Et qu'en est-il peut-être en termes d'incorporation? Est-ce qu'on peut garder continuellement une société établie dans un autre pays et uniquement venir vendre dans un autre pays, disons comme la France ici, sans nécessairement avoir une structure administrative sur place?
Alors, c'est possible. Tout ça, là, ça va être des questions de fiscalité internationale où vraiment on va devoir comprendre le cadre fiscal de la société. Parce que la société, elle a l'endroit où elle a été incorporée, mais elle a aussi l'endroit où elle développe son activité. C'est ce qu'on appelle l'établissement stable. L'établissement stable, en fait, c'est l'endroit d'où est gérée la société. Donc, si vous avez que votre ordinateur pour travailler, ça va être vous derrière votre ordinateur. Et donc, en fait, ça va déterminer la taxe. Après, si derrière, vous voulez vraiment vous implanter de façon plus sérieuse, avoir des stocks sur place, avoir des équipes sur place, là, il faudra mettre en place une succursale. Donc, la succursale, c'est un petit peu la forme physique de l'établissement stable où on va vraiment officialiser la présence de notre société dans un autre pays. Et dans ce cas-là, il faudra s'inscrire. Cette succursale devra respecter les règles françaises, devra payer des impôts en France, etc. Donc là, voilà, c'est vraiment quand on monte à un autre niveau, on veut vraiment bien s'étendre sur un territoire. C'est comme ça que ça se passe. Et pour l'Union européenne, comme c'est un système économique qui a été pensé justement pour faciliter la libre circulation des marchandises, des capitaux, etc., vous n'aurez pas de soucis si vous implantez dans un des pays pour pouvoir après vous vendre dans les autres pays de l'Union européenne.
Intéressant. Donc, de ce que je comprends, si on est une boutique en France maintenant et qu'on veut vendre dans les autres pays en Europe, pas tellement d'enjeux à ce niveau-là.
Oui, ce sera assez facilité.
Mais si par contre, on veut amener notre boutique aux États-Unis ou au Canada, là, on peut avoir certaines étapes à suivre avant ultimement d'être légal et de pouvoir vendre nos produits sur place.
Alors, je connais pas le système canadien, enfin en tout cas le droit canadien. J'ai pas eu la chance de faire du droit canadien ou américain, mais Mais en tout cas, oui, globalement, il faut, de toute façon, il faut bien s'entourer. Quand on veut, quand on veut s'étendre, quand on veut scaler, hein, quand on veut, voilà, avancer, on peut pas le faire sans être accompagné. Au début, voilà, on est un petit peu tous autodidactes à vouloir toucher à tout et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais quand ça commence quand ça commence à bien fonctionner, si on n'est pas capable de déléguer un petit peu certaines choses et de faire confiance à des personnes qui sont plus spécialisées dans certains domaines, il peut y avoir des problèmes et malheureusement les problèmes en droit ont des conséquences beaucoup plus lourdes que peut-être dans d'autres domaines ou autre quoi. Donc voilà.
Parfait. J'aimerais parler maintenant d'un point avec toi. Tu as mentionné plus tôt, le volet du droit est un volet assez rigide. On est d'accord, c'est la réalité de ce que j'ai compris en France, c'est la réalité également au Canada, c'est la réalité également en Espagne où est-ce que je suis en ce moment. Maintenant, à quelle vitesse, même si on est dans un environnement qui est rigide, les lois évoluent? Est-ce que toi, chaque année, tu dois réauditer, on pourrait dire, un petit peu tout ce que tu connais pour être certain que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est peut-être une pratique que tu vas faire davantage aux 2 ans, aux 3 ans? À quelle vitesse tout ça évolue pour qu'on soit capable de dire à notre audience quand ils doivent faire des vérifications de leur côté à ce niveau-là?
Alors, déjà, il faut, je pense que c'est important de suivre des personnes ou des médias ou autres qui sont un petit peu spécialisés dans votre domaine. Parce que, en général, s'il y a des nouveautés importantes, si elles suivent bien l'actualité, elles devraient vous partager ces informations au niveau de l'évolution. Ensuite, après, au niveau de l'évolution du droit, en réalité, il n'y a pas des grands changements. En tout cas, s'il y a des grands changements, vous le saurez, ça fera du bruit. Mais il n'y a pas de grands changements. Pourquoi? Parce que le droit, c'est un petit peu comme une pyramide. C'est-à-dire qu'on a toujours une base commune et ou alors un arbre. Voilà. Et puis après, petit à petit, on va y ajouter des choses. Si je prends, par exemple, l'exemple de la vente de site, la vente de site e-commerce. Légalement, un site, on va appeler ça un fonds de commerce. C'est un peu comme une boutique. Voilà, vous avez une boutique dans une rue, une boulangerie, peu importe. Vous avez ce qu'on appelle les murs, en tout cas l'immeuble, et le fonds de commerce qui est le développement d'un business, d'une activité commerciale. Eh bien, on s'est posé la question, comment on fait avec une boutique en ligne? Eh bien, c'est là où on s'est dit, OK, on va développer ça. Et c'est notamment le juge qui va venir justement adapter le droit avec du droit existant pour venir correctement s'appliquer sur les nouvelles activités. Et donc, on a mis en place le fonds de commerce numérique qui vient respecter les mêmes règles que le fonds de commerce normal, mais avec des subtilités, avec certaines choses qui sont différentes. Voilà, mais retenez de toute façon que le droit sait s'adapter en général. Après, il existe évidemment beaucoup de failles, hein, surtout dans le monde du e-commerce et du business en ligne. Il y a énormément de failles encore, hein, il y a encore beaucoup de boulot. Ce qui ne facilite pas mon travail, moi, parce que c'est l'info n'est pas, je suis pas à l'accueillir comme ça dans les codes. Non, il faut beaucoup de réflexion pour comprendre justement et anticiper en fait ce qui va se passer. C'est ça l'enjeu en fait dans notre activité, c'est que il y a des domaines où on n'a pas de réponse et il faut être suffisamment prudent pour pas que après on se rende compte que tout ce qu'on a fait en fait c'était pas bien quoi.
Intéressant. On a eu des discussions préalables toi et moi Emile ensemble où est-ce qu'on parlait de vente d'entreprise. Je te mentionnais que j'étais assez dynamique de mon côté présentement sur des acquisitions de boutiques en ligne. Toi je sais que tu as aidé certains propriétaires de boutiques en ligne à vendre. Disons qu'on a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, sont en train de planifier une sortie. Quelles seraient les étapes que tu recommanderais à ces gens-là de suivre dès maintenant pour s'assurer qu'au moment qu'ils veulent vendre leur entreprise, tout a été planifié de la bonne façon pour être certain que au final, ça soit assez simple quand on veut vendre l'organisation?
Alors, pour planifier, si on peut prendre les choses de façon simple, mettez-vous à la place d'une personne sérieuse qui va vouloir racheter votre business et essayez de chercher quelles sont les choses sur lesquelles il pourra négocier ou les choses sur lesquelles il pourra vous dire « là, ça, c'est pas clair, ça, c'est pas bon ». Et donc, si on fait un petit tour, ça va être quoi? Déjà, ça va être la comptabilité. Avoir une comptabilité propre où tout est clair, où il n'y a pas de problème, point important. Ensuite, avoir un passif aussi avec votre société clair. Ne pas avoir eu de problème avec l'administration, ne pas avoir eu de problème avec votre structuration, que tout soit bien de ce côté-là. Ensuite, on va avoir la relation avec les clients. Donc, avoir eu une bonne relation avec les clients parce que si après la vente, il y a en fait finalement des clients qui reviennent vers cette boutique, qui ont eu des gros problèmes et la vente a déjà eu lieu, ça peut annuler la vente et ça peut se retourner contre vous. Donc, vous assurez que vous respectez bien les réglementations autour des produits que vous vendez, autour des choses que vous faites avec vos clients et aussi la clientèle.
Intéressant. Puis, Emile, tu as quand même une belle communauté sur YouTube. Donc, on mettra un lien dans les notes de l'épisode pour être certain que tous nos auditeurs qui veulent en apprendre un petit peu plus sur le droit soient capables de se référer à tes différentes capsules. Émile Ouest, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très pertinent, très intéressant. Je suis convaincu que les gens qui vont écouter le podcast vont être capables de se poser les bonnes questions, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est structuré de la bonne façon? Est-ce que notre incorporation a été faite dans les règles de l'art? Bref, c'est important de faire des vérifications quand même assez souvent. Merci beaucoup, Émile Ouest. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.